Bonsoir. Donc, merci et bravo d'avoir bravé le froid et les intempéries une nouvelle fois. Voilà, cette année, vraiment, mon cours est maudit. Les séances où il n'y aura pas eu de neige se compteront sur les doigts de la main. Enfin, voilà, il n'y en aura pas beaucoup. Bon, on va tout de suite continuer l'évocation des rapports entre politique et sexe. Alors, cette fois, sexe entendu au sens de plus restreint de sexualité, hein, comme j'avais dit la semaine dernière. On va s'arrêter sur une nouvelle question, hein, après l'homosexualité, donc la semaine dernière. On va aborder aujourd'hui la question des politiques de la prostitution, qu'on va engager notamment au travers des problèmes de décence publique. Hein. On verra que, selon un mot qui est attribué à Gambetta, la prostitution, c'est avant tout une affaire de voirie, et c'est la visibilité de cette activité qui pose très souvent problème aux politiques. Alors, quelques mots de délimitation tout d'abord. La perspective que je vais adopter pour aujourd'hui, ce sera comme la semaine dernière, une perspective globalement chronologique, mais je vais restreindre la période qu'on va couvrir. Hein. La semaine dernière, on était remonté à l'Antiquité. Aujourd'hui, je vais remonter moins loin. Je vais commencer à partir de la Révolution française, parce que c'est à cette période qu'on a commencé à formuler, on a commencé à penser la question de la prostitution dans des termes qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Alors, j'aurais pu, bien sûr, démarrer plus tôt, hein, évoquer l'Antiquité, là aussi, j'aurais pu évoquer le Moyen-Âge ou la Renaissance pour faire valoir des manières très contrastées dont on a traité de la prostitution durant ces périodes. Hein. Sous Saint-Louis, les prostituées sont obligées de porter des signes distinctifs vestimentaires, hein, un peu sur le modèle de l'étoile jaune. À d'autres périodes du Moyen-Âge, elles pouvaient s'organiser en corporations et puis elles participaient aux fêtes dans les villes, comme les autres corporations, elles étaient davantage reconnues. Hein. Mais bon, là on n'a pas le temps de dresser une fresque historique complète. On va surtout s'arrêter sur les enjeux politiques et essayer d'éclairer les enjeux qui nous sont contemporains. Et donc, je vais me concentrer sur une séquence qui s'ouvre avec la Révolution française. Alors, mon exposé va être divisé en trois parties. La première va évoquer un mode d'encadrement de la prostitution qu'on appelle le réglementarisme, le fait qu'on soumette cette activité à une réglementation stricte. La deuxième partie évoquera un autre mode, si on veut, d'encadrement qui est totalement contraire au réglementarisme et qui s'appelle l'abolitionnisme. Et puis, en un troisième temps, j'évoquerai la situation actuelle, tout au moins en France, et des enjeux contemporains. Alors, premier point, le réglementarisme, c'est quoi? On peut le définir à minima dans un premier temps. C'est l'idée que la prostitution, c'est une activité nécessaire, mais qui pose de gros problèmes de gestion, et notamment de visibilité dans l'espace public. Et donc, il est nécessaire de la soumettre à une réglementation stricte. Alors, cette idée, elle n'apparaît pas avec le XVIIIe siècle, elle est plus ancienne, mais c'est vraiment à la fin du siècle des Lumières que va être formulée cette idée que une réglementation stricte, et surtout rationnellement pensée, doit être mise en œuvre en matière de prostitution. Alors, on trouve, je cite juste pour l'anecdote, une première formulation de cette idée dans la littérature, chez Restif de la Bretonne, hein, je donne les dates, est né en 1734 et mort en 1806. Alors, dans un texte de 1769, une année érotique, une fois encore, on en trouvera d'autres, un livre qui s'appelle « Le pornographe », et surtout ce qui est intéressant, c'est le sous-titre « Idée d'un honnête homme sur un projet de règlement des prostituées propre à prévenir les malheurs qu'occasionne le publicisme des femmes ». Donc, vous voyez, le problème, c'est la publicité de cette activité et il s'agit d'y porter remède de manière rationnelle. Alors, c'est un peu sur un mode d'une utopie comme le XVIIIe siècle les aimait bien, avec des établissements très rationnellement pensés où des hommes et des femmes vont se livrer à la prostitution pendant une période donnée de leur vie et, voilà, et avec une réglementation stricte pour éviter les formes publiques scandaleuses de cette activité. Alors voilà, c'est un peu une espèce d'utopie, quelque chose du fruit de l'imagination de Restif de la Bretonne, hein, qui est un écrivain qu'on peut rapprocher dans une certaine mesure des libertins. Alors, cette idée de réglementation, elle va être mise en place, par contre, et de manière plus concrète, au moment de la Révolution. Alors, à la fois pour conjurer les problèmes qui sont liés aux expressions publiques scandaleuses de la prostitution, le fait qu'il y ait des prostituées dans la rue, mais aussi le péril pour la santé que représente cette activité, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle le péril vénérien, le fait que, par les prostituées, se transmettent un certain nombre de maladies sexuellement transmissibles, qu'on appelait vénériennes à l'époque. Alors, donc, il s'agit de contrôler cette activité, d'avoir un contrôle politique sur cette activité, mais le problème, c'est que c'est une activité informelle. Qui n'est pas encadrée, et donc il s'agit précisément de faire quitter l'informalité pour donner un cadre formel à la prostitution. Et la première initiative, c'est d'opérer un recensement de toutes les prostituées et imposer leur inscription sur un registre général. Alors, c'est une idée qui date de 1798. Hein, et à partir du moment où elles seront toutes enregistrées, hein, leur nom sur un registre, plus aucune fille ne pourra dire qu'elle n'est pas prostituée. Ah non, je passais par hasard devant un hôtel de passe. On vous connaît bien, on a votre nom sur les registres. Est-ce que vous vous conformez à la réglementation? Si vous manquez à la réglementation, vous aurez une sanction. Hein, ça sera une infraction. Donc, aussi une première chose à retenir à ce niveau-là, c'est que le directoire s'est posé la question de produire une loi en matière de prostitution, mais l'Assemblée nationale avait trouvé que c'était quand même indigne d'elle de traiter de tels sujets, et donc on a confié aux municipalités la tâche d'élaborer la réglementation. La réglementation est nécessaire, mais elle n'est pas du ressort de la loi, elle est du ressort du niveau local, des municipalités. Alors la plupart des villes vont adopter la même réglementation. Il n'empêche que c'est à ce niveau-là, strictement local, que ça va se formaliser. Et justement, au niveau local, en tout cas parisien, il y a une étape décisive qui sera franchie en 1811, lorsque le préfet de Paris, Denis-Étienne Pasquier, va élaborer véritablement la première réglementation des maisons de prostitution. Restif de la Bretonne avait commencé à penser des établissements spécialisés. Eh bien là, on va prendre au pied de la lettre sa proposition et on va instaurer une réglementation des maisons. Bon, déjà des bordels qui existent de longue date, hein, mais on va les réglementer. Simplement, on prend acte que la police est dans l'impossibilité d'empêcher l'existence de ces maisons de débauche et donc l'objectif, c'est de diminuer les inconvénients et les excès en réglementant leur organisation et en contrôlant leur salubrité. Alors, par exemple, dans cette réglementation, il est interdit de tenir une maison de débauche à proximité d'un lieu de culte ou d'une école. L'établissement doit être équipé d'une double entrée, il ne doit pas être situé au rez-de-chaussée, les fenêtres doivent être munies de barreaux et de verres dépolis, le nombre des chambres doit être proportionné aux effectifs, et chaque prostituée doit disposer d'une chambre individuelle, alors pas pour des raisons de confort, mais pour éviter que deux femmes ensemble, ça les prédispose à l'homosexualité, ce qui serait quand même terrible. Voilà, vous voyez, un encadrement moral, malgré tout, de cette activité. Et donc, je cite le grand historien de la prostitution, qui est Alain Corbin, donc dans ce livre « Les filles de noces ». Oui. Et Corbin nous dit « Dans le projet réglementariste, l'administration purifie la prostitution en l'obligeant à quitter l'ombre pour la lumière qui permet la transparence. » C'est-à-dire que la maison de tolérance, le bordel réglementé, c'est un établissement qui est hermétiquement clos, hein, vous voyez, les verres dépolis aux fenêtres, tout ça, mais il doit être, cet espace délimité, en permanence accessible à la police, qui est là, à tout moment, peut intervenir pour contrôler que tout se passe bien, tout se passe conformément à la réglementation. Et à ce niveau-là, le bordel, il est conçu comme un univers strictement hiérarchisé, alors qu'il est dirigé par une maîtresse de maison, hein, mais qui est souvent une ancienne prostituée, et qui en fait ne dispose que d'une autorité déléguée par la police sur les activités. Hein, elle doit se faire homologuer, agréer par la police pour pouvoir être la patronne de l'établissement. Et en fin de compte, la police a les moyens de pression, lui retire son autorisation, ce qu'on appelle une tolérance, si elle contrevient à la réglementation. Alors, ce modèle de la maison close, hein, et l'idée de la clôture, vous voyez, il est important, hein, c'est à la fois, il est favorisé parce qu'il permet que, il n'y a pas des prostituées qui débordent dans l'espace public, et puis en même temps, c'est un espace qui est délimité, donc on peut le contrôler plus facilement. Hein. Il est immédiatement accessible à la police qui peut vérifier que tout se passe bien à l'intérieur. Alors, ce n'est pas la seule forme de prostitution qui existe en ce 19e siècle. Hein. Il y a aussi ce qu'on appelle les filles en carte, c'est-à-dire des prostituées qui exercent chez elles, ou dans la rue, ou dans des hôtels, mais qui, elles aussi, sont tenues de se soumettre à un règlement strict. C'est-à-dire aussi, il y a la réglementation des établissements, il y a la réglementation qui s'impose aux prostituées elles-mêmes, et qui toutes, quel que soit leur mode d'exercice, soit en maison, soit à domicile, je dirais, sont tenues notamment de se faire inscrire sur des registres municipaux, première chose, et puis la chose qui en découle, elles sont tenues de se soumettre à des visites sanitaires obligatoires et régulières. Donc ce sont des examens gynécologiques qui sont réalisés par des médecins de la préfecture et qui sont enregistrés sur la carte de chaque prostituée. Hein, ils sont effectués, ces examens, soit dans les bordels, soit dans les dispensaires antivénériens, soit encore, lorsqu'une prostituée se fait attraper dans la rue et puis qu'on lui dit « mais t'es pas enregistré » ou alors « ta carte n'est pas à jour », et bien ça se fait à la préfecture. Et donc, évidemment, celles qui sont principalement visées, c'est celles qu'on appelle les insoumises, c'est-à-dire celles qui exercent sans être enregistrées. Alors, sans se soumettre au contrôle sanitaire. Alors, lorsque ces prostituées se font attraper, elles sont immédiatement, on les contrôle au niveau sanitaire, elles sont condamnées à des peines de prison. Si elles sont trouvées malades, on leur impose une hospitalisation dans des conditions qui sont des conditions carcérales, hein, avec l'obligation de se faire soigner ou l'obligation d'être enfermées jusqu'à ce qu'on considère qu'elles ne sont plus contagieuses. Et donc évidemment, vu que c'était quelque chose d'extrêmement coercitif, brutal, qu'il y avait la menace de l'enfermement, soit à l'hôpital, soit à la prison, nombreuses étaient les prostituées à essayer de se soustraire à ces examens. Alors, le projet réglementariste, hein, il se formule à la fin du XVIIIe siècle, il se diffuse aussi avec les conquêtes napoléoniennes, hein, notamment, la Belgique est toujours un pays aujourd'hui réglementariste, enfin, ça dépend des lieux et ça dépend des villes. C'est-à-dire que cette idée que la réglementation se décide au niveau municipal, c'est toujours d'actualité en Belgique. Alors, il y a des villes qui interdisent la prostitution, qui interdisent les bordels, il y en a d'autres qui autorisent avec telle ou telle réglementation. Hein. Et ça, c'est un des aspects, l'œuvre civilisatrice, si j'ose dire, de Napoléon, qui a fait que ce modèle réglementariste a été assez largement répandu en Europe au XIXe siècle. Ce qu'il faut citer, parce que c'est un acteur important, c'est sous la monarchie de Juillet, un médecin hygiéniste de la ville de Paris qui s'appelle Alexandre Parent du Châtelet, qui va écrire un bouquin énorme de 1200 pages sur la prostitution, qui s'intitule « De la prostitution dans la ville de Paris, considérée sous le rapport de l'hygiène publique, de la morale et de l'administration ». Alors ce qui est intéressant, c'est lui qui a un peu pensé et formalisé le projet réglementariste, avec cette idée de contrôler de manière sanitaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, c'est un spécialiste de la voirie et des égouts. On lui a dit, écoute, tu t'occupes des égouts, occupe-toi de la prostitution en même temps. Bon, voilà, c'est le même domaine de compétences, hein, dans les représentations, évidemment, de l'époque. Alors, évidemment, la prostitution, elle est considérée comme un péril, hein, un péril de santé publique, la diffusion des maladies, mais également un péril social, parce que les prostituées, ce sont des femmes des classes populaires, Et ces classes laborieuses, comme on dit à l'époque, ce sont des classes dangereuses, mais aussi ce sont des classes vicieuses pour la bourgeoisie de l'époque. Et c'est la question de l'influence délétère de ces personnes sur la société bourgeoise qui est en jeu. On a aussi la crainte d'une... la prostitution, c'est une menace diffuse qui est à la fois morale, sociale, sanitaire et politique. Les femmes des classes populaires ont leur attribut de la paresse, de l'oisiveté, de l'instabilité et de l'imprévoyance, mais aussi on leur prête des mœurs sexuelles dévoyées et désordonnées. Et si on ne les contrôle pas, si on ne les tient pas à distance, si on ne peut pas les repérer avec un système de cartes, elles risquent de se diffuser dans la société bourgeoise. Qui sait si la domestique qu'on est en train d'embaucher, c'est pas une ancienne prostituée, elle risque de contaminer moralement, sexuellement aussi, parce que voilà. Donc il s'agit de les identifier pour les séparer du reste du monde social. Donc il y a un enjeu de classe. La bourgeoisie veut bien s'amuser sexuellement avec les filles des classes populaires, mais elle ne veut pas se mélanger avec elles. C'est aussi un enjeu de genre, au sens que j'avais développé dans la première séance, c'est-à-dire que c'est aussi le contrôle des hommes sur le corps des femmes qui est en jeu. La prostituée, c'est un être dangereux parce qu'elle peut obtenir par sa prostitution une autonomie économique et sociale, alors que la place d'une femme, c'est d'être sous la dépendance d'un père ou d'un mari. Et c'est pas un hasard si au XIXe siècle, on utilise la même expression, celle de femme isolée, pour décrire soit une prostituée indépendante, clandestine, une insoumise, soit une ouvrière qui travaille toute seule, qui est célibataire et qui reverse pas l'argent qu'elle gagne à son mari ou à son père. Dans les représentations, on voit le péril qu'il y a à ce que une jeune femme soit autonome économiquement, que ce soit par le travail ou par la prostitution. Et hors du contrôle masculin et des tâches spécifiquement féminines d'entretien du foyer familial, Une femme des classes populaires toute seule ne pouvait, pour les penseurs de l'époque, que se livrer au désordre et à la débauche, où la pousseraient ses inclinations à la paresse, à la luxure et à l'immodération des désirs. Je cite des auteurs du XIXe siècle. Et la même logique se retrouve à l'égard des jeunes femmes isolées dans l'espace public. Parce que ce pouvoir de rafle dont disposait la police, il s'exerçait sur des prostituées insoumises, mais il s'exerçait aussi à l'égard de jeunes femmes qui se promenaient dans la rue toute seule. Mais une femme qui se promène dans la rue toute seule, c'est qu'elle a quelque chose qui n'est pas clair quand même. C'est pas normal, sa place c'est à la maison. Ou alors elle devrait être accompagnée. Et donc les policiers se sentaient autorisés à rafler des jeunes femmes, et puis on va vérifier qu'elle n'a pas, une blénorragie ou je ne sais quoi, et des pauvres jeunes filles qui se baladaient dans la rue se retrouvent avec un examen gynécologique forcé, c'est-à-dire un viol. Il y a eu des scandales qui ont été étouffés, mais dont les historiens ont trouvé des traces de tels comportements, et notamment des jeunes femmes qui se sont suicidées après ça, elles étaient traumatisées par le fait qu'on les ait traitées comme des prostituées. Pas simplement qu'on ait cru qu'elles étaient prostituées, mais qu'on les ait traitées physiquement comme telles. Alors, pour autant, la prostitution, elle est considérée comme menaçante, répugnante, dangereuse pour les réglementaristes, mais pour eux, elle est indispensable au maintien de l'ordre et de la santé du corps social. Je cite Parent du Châtelet, « Les prostituées sont aussi inévitables dans une agglomération d'hommes que les égouts, les voiries et les dépôts d'immondices. » La prostituée, je cite encore Parent du Châtelet, c'est un égout séminal. Donc la prostitution, c'est considéré comme une espèce de digue qui est destinée à contenir les débordements extra-conjugaux et à empêcher que ces débordements se répandent pour contaminer et déstabiliser le reste du monde social. S'il n'y a pas de prostituée, elle risque de s'attaquer à des femmes honnêtes, et à nos filles, nos femmes, ce genre de raisonnement. Donc la prostituée, elle est abjecte, mais elle est socialement nécessaire. L'objectif, c'est pas sa réhabilitation ou sa réinsertion, mais c'est l'inculcation de la docilité à l'égard du règlement, pour qu'on puisse la contrôler. Alors ce réglementarisme, je vais vite, il n'est pas resté le même tout au long du XIXe siècle, et autant la période un peu, le premier âge d'or, c'est Parent du Châtelet, c'est la monarchie de Juillet. Après, ça se relâche un peu. Bon, et puis, à partir de 1870-80, ces années-là, à nouveau un raidissement. Raidissement pourquoi ? Ben parce qu'il y a eu la défaite face à l'Allemagne. Et il y a la thématique de si on a perdu contre l'Allemagne, c'est que la France n'était pas assez virile, la population n'était pas assez puissante, c'est la crainte de la dégénérescence de la race, donc c'est l'idée de l'eugénisme, c'est l'idée de la démographie, voilà, les prostituées sont dangereuses par les maladies qu'elles peuvent transmettre pour la santé de la race française, de la population française, on la pense en termes de race à l'époque. Et donc, il faut les contrôler, et à nouveau, resserrement de vis et retour d'un réglementarisme très, très strict. Et ça s'accompagne du développement d'une science spécialisée sur les prostituées. Alors, ça participe de ce que j'ai évoqué la semaine dernière, de ce que Foucault a appelé une scientia sexualis, une science de la sexualité. J'avais évoqué l'homosexualité qui commence à être pensée médicalement comme catégorie médicale qui apparaît à cette époque-là, dans ces mêmes années, mais c'est toute une science des perversions et des déviances sexuelles qui se constituent, et les prostituées, évidemment, en font partie au même titre que les onanistes, que les homosexuels, que tout ce que vous voulez. Et la personnalité de la prostituée, d'une certaine manière, c'est une régression scientifique. Parent du Châtelet, malgré tous ces biais, tous ces préjugés, il pense la prostitution et la prostituée en termes sociaux et économiques, en grande partie. À la fin du XIXe siècle, on la pense en termes biologiques. Il y a des prostituées nées, et vous avez des anthropologues, mais au sens de l'anthropologie physique, comme Cesare Lombroso, un anthropologue italien de l'époque, qui pense qu'on peut identifier une prostituée à ses caractéristiques physiques. Elles ont la voix plus rauque, elles ont une pilosité supérieure aux autres femmes, et c'est le genre de type qui mesure des crânes et qui pèse les cerveaux des délinquants pour le cerveau du délinquant ou la face du délinquant, elle est différente de la face de l'homme ou de la femme honnête. Si vous voulez aussi avoir une illustration de ça, pensez à Zola. Toute la littérature de Zola, elle est imprégnée de ces idées. Que c'est physique, le destin social des individus. Et Nana, c'est une dégénérée aussi. Et la fin de Nana, après sa période de splendeur, c'est la dégénérescence c'est son destin de dégénérer qui s'accomplit de manière accélérée. Voilà. Et par exemple, je cite aussi 1911 quand même, c'est aussi tiré de Corbin, un médecin, docteur Simoneau, qui dit que la prostitution est une affection organique pathologique et un acte réflexe automatique. Voilà, le style de sottise qu'on pouvait se permettre il y a à peine un siècle. Alors, j'en viens maintenant à mon deuxième point, l'abolitionnisme, parce que quand même, des choses aussi monstrueuses méritaient d'être contestées. Alors, le réglementarisme, il s'est remobilisé, je l'ai dit, à partir des années 1870, aussi, pour les raisons que j'ai dites, mais aussi parce qu'il a commencé à être sévèrement contesté à la même époque. Alors, cette contestation, elle va naître en Angleterre dans les années 1860 parce que le gouvernement anglais va adopter les Contagious Disease Act, c'est-à-dire une loi sur les maladies contagieuses qui est directement inspirée de la réglementation française. Et pareil, on prévoit l'inscription et le contrôle sanitaire obligatoire des prostituées dans plusieurs ports et villes de garnison, pour lutter contre la diffusion des maladies vénériennes chez les soldats. Et donc, toute femme qui est identifiée comme prostituée notoire peut être arrêtée par la police et soumise à un examen gynécologique. Et pareil, si on trouve une maladie, elle est contrainte à une hospitalisation obligatoire d'une durée maximum de 9 mois. Alors, il y a une historienne qui s'appelle Judith Welkowitz qui a réalisé un travail très intéressant qui, malheureusement, n'a pas été traduit en français, sur cette période, sur l'Angleterre, et elle montre que, et sur la mise en œuvre de la réglementation en Angleterre. Et elle montre que ça a contribué, ce passage au réglementarisme en Angleterre, à ce que des femmes qui se livraient à la prostitution de manière informelle, femmes des classes populaires, il y a des périodes où elles trouvent du travail, comme ouvrières, ça va. Mais période de récession économique, il faut bien se débrouiller et elle se débrouille comme ça. Hein, donc c'est quelque chose, leur entourage sait que c'est parfois dur, est disposé à fermer les yeux sur la manière dont elles se débrouillent pour avoir un peu, gagner un peu d'argent. Bon, et puis c'est une activité qui dure pas. Après elles se mettent en ménage, elles se marient. Bon, sauf que avec la réglementation, ben, cette informalité de l'activité, le fait que ça dure pas longtemps, c'est plus possible. Parce que là, elles ont été identifiées et elles sont labellisées, et elles sont labellisées, étiquetées en tant que prostituées, par pas par n'importe qui, par la police, par l'État. Hein. Et puis, elles peuvent pas dire, non, je passais devant l'hôtel de passe, là, on a le nom sur un registre. Hein. Donc ça a contribué à enfermer durablement ces prostituées dans cette catégorie de prostituées. Avant, c'était des jeunes femmes un peu légères qui s'arrangeaient. Là, ce sont des prostituées. Et il y a une objectivité du statut. Hein. Il y a une brutalité du statut, de la manière de l'imposer, et on ne peut plus le mettre à distance, ce statut de prostituée. Et ce que remarque Judith Valkovitz, c'est que la durée d'exercice de la prostitution va considérablement s'allonger après le passage au réglementarisme. C'est-à-dire que c'était informel, là c'est officiel. Et pour retrouver du travail, quand on a été étiqueté comme prostitué par l'État, c'est un peu plus dur. Hein, c'est un peu plus dur de nier, de jouer. Bon. Alors, ces conséquences, elles ne vont pas passer inaperçues, notamment au sein de la petite bourgeoisie protestante anglaise, où des gens vont se mobiliser contre le réglementarisme. Alors, ce qui est amusant, c'est que vous avez d'abord une association de médecins, l'Association nationale pour l'abrogation des lois sur les maladies contagieuses, mais c'est une association qui n'admet pas les femmes. Et donc, on va fonder juste à côté la Ladies National Association, l'équivalent féminin, qui sera, pour une fois, beaucoup plus dynamique que son pendant masculin. C'est-à-dire que les petite morale dans cette histoire, c'est que la branche féminine va largement dépasser et supplanter la branche masculine, notamment parce qu'elle est dirigée par quelqu'un qui s'appelle Joséphine Butler, qui va devenir un peu l'héroïne de l'abolitionnisme, c'est-à-dire, et c'est important d'y insister, hein, je tiens à y insister beaucoup, l'abolitionnisme, ce qu'il vise, c'est l'abolition de la réglementation de la prostitution. Il ne vise pas à l'abolition de la prostitution. Il y aura des glissements de sens par la suite, mais tel que c'est conçu, c'est l'abolition de la réglementation. Alors, abolition aussi, le terme sonne bien parce qu'il y a la référence à l'esclavage. Ce sont les mêmes milieux sociaux, petites bourgeoisies protestantes, qui se sont mobilisés peu auparavant pour l'abolition de l'esclavage, aux États-Unis notamment. Alors, ce qui est, et ça va être une constante de l'abolitionnisme que de se référer à la traite esclavagiste, mais avec un effet de dramatisation, hein, parce que la traite des blanches, pour eux, d'une certaine manière, elle est plus grave que la traite des noirs. Pourquoi ? Parce que les victimes sont blanches. Alors, à la fois blanches de peau, blanches aussi de leur virginale innocence, dans certaines représentations, j'évoquerai tout à l'heure la question de la traite des blanches, hein, c'est aussi lié à ça, mais aussi parce que les Noirs, quand ils étaient réduits en esclavage, finalement, ils apprenaient les vertus civilisatrices du travail et de la religion. Alors que ces pauvres jeunes filles blanches, elles étaient vouées à une double perdition physique et spirituelle. Vous voyez, c'était plus grave encore. Bon, vous voyez que malgré tout, ces gens étaient progressistes, n'empêche qu'ils avaient pas mal de préjugés racistes, condescendants, bon, et aussi sexiste, vu qu'il a fallu développer une branche féminine à côté d'une branche masculine. Bref. Alors, cette campagne abolitionniste va être très vigoureuse en Angleterre dans les années 1870. Elle va dénoncer le réglementarisme, à la fois comme une imposture dénuée d'efficacité sur le plan sanitaire, parce que si on contrôle les prostituées, mais pas leurs clients, ça n'a pas beaucoup d'effet. Et puis, c'est une atteinte à la liberté et à la dignité des femmes prostituées, une violation de leurs droits constitutionnels par l'arbitraire policier. Et puis, c'est aussi un encouragement à l'immoralité et au libertinage masculin. Et donc, pour eux, la prostitution, ce n'est pas un mal nécessaire ou un dérivatif indispensable aux pulsions sexuelles masculines. C'est une pratique immorale contre laquelle l'abstinence et la fidélité conjugale sont quand même les meilleures armes. Donc il y a un moralisme puritain hein, qui imprègne cette vision, mais il y a aussi une connotation féministe. Hein. Les abolitionnistes réclament une morale unique pour les deux sexes. Hein. Ils dénoncent le traitement inégal dont sont victimes les prostituées et leurs clients. Hein. Et ils proclament que la pratique de l'impureté est aussi répréhensible chez l'homme que chez la femme. Bon, alors, ça va être efficace en Angleterre. Hein. En 1883, on va abandonner le réglementarisme. Mais vous voyez qu'il y a une ambiguïté fondamentale au sein de l'abolitionnisme entre, d'une part, un courant progressiste, il s'agit de protéger les libertés publiques contre l'arbitraire policier, il y a une dimension féministe, hein, il faut défendre les femmes contre l'impunité de leurs clients, voilà. Puis dans le même temps, il y a une dimension puritaine, religieuse, l'abstinence plutôt que la sexualité hors mariage, voilà. Alors, il y aura les deux. Et souvent chez les mêmes personnes, hein, les deux courants, à la fois progressistes et puritains, vont coexister. Le problème, c'est qu'à la fin du XIXe siècle, le courant puritain va être dominant. Et l'ironie de l'histoire, c'est que suite à des campagnes d'abolitionnistes vraiment puritains, on va instaurer en Angleterre des lois sur la décence publique qui vont accorder des pouvoirs accrus à la police et qui vont se révéler encore plus répressifs que les lois sur les maladies contagieuses. Hein. Et ça va contribuer à rendre encore plus fragiles les prostituées devant la répression policière. Alors là, pas pour la question de la diffusion des maladies vénériennes, mais pour leur contribution à l'indécence publique. Hein. Et elles vont être davantage isolées et pour se protéger contre les rafles de la police, elles vont être obligées de payer des protecteurs, c'est-à-dire des proxénètes. Donc voilà, retournement de situation ou effet pervers d'une campagne un peu trop puritaine. Alors l'autre aspect important de l'abolitionnisme, c'est sa dimension internationale qui va être impulsée par la question de la traite des blanches. Alors c'est une thématique qui apparaît en 1885 lorsqu'il y a un journaliste anglais qui va publier un article retentissant dans lequel il dénonce l'existence à Londres d'un marché organisé de jeunes filles vierges contre lequel la police serait inactive, voire même complice. Et il y aurait, nous dit ce journaliste, un nombre considérable de toutes jeunes filles qui sont enlevées, droguées, puis vendues pour être violées dans des bordels spécialisés par des clients, des riches pervers, et ensuite elles viendraient grossir les rangs de la prostitution. Alors ça provoque une émotion considérable en Angleterre, en France aussi, l'article de ce journaliste qui est traduit en français, voilà, et puis il y a des manifestations pour que on élève, la loi élève l'âge du consentement sexuel de 13 à 16 ans. Hein, et voilà, enfin, la loi sera mise en place. Et donc le thème de la traite des blanches va devenir le principal enjeu des mobilisations qui concerne la prostitution, au point de supplanter la question du réglementarisme. Ce continue notamment en France, hein, à l'époque. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la traite des blanches, en fait, c'est un mythe. C'est-à-dire que le journaliste, il a bien découvert des prostituées mineures anglaises dans des bordels de Bruxelles. Hein, il avait dit, voilà, des pauvres jeunes filles, toutes jeunes filles anglaises qui sont enlevées et puis se retrouvent dans des bordels à Bruxelles. Bon. Sauf que il a trouvé des prostituées mineures dans les bordels de Bruxelles, mais mineures, ça veut dire qu'il y en avait 7 qui avaient entre 18 et 20 ans, et 2 qui avaient entre 16 et 18 ans. Et donc, contrairement à ce que sous-entendait son article, ce n'était pas des enfants. Bon, c'était pubère. Alors, on peut trouver que, de toute façon, être dans un bordel, ce n'est pas une bonne place. C'est vrai qu'il n'empêche que ce n'est pas des toutes jeunes filles qui sont concernées, et puis d'autre part, ce n'est pas des filles kidnappées et forcées à se prostituer, mais des jeunes femmes qui savaient très bien ce qu'elles allaient faire dans les bordels, et qui en plus n'entendaient pas interrompre leur carrière dans la prostitution. Donc on retrouve dès cette époque un des thèmes privilégiés de la dénonciation de la traite des blanches, c'est-à-dire que ce sont des pauvres jeunes filles innocentes, mais naïves, qui se sont fait piéger par des proxénètes manipulateurs qui vont les transporter à l'étranger et qui vont les contraindre à se prostituer contre leur gré. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette thématique, elle n'est pas nouvelle, même à la fin du XIXe siècle. Elle appartient à un vieux fond de croyances populaires, et on retrouve à différentes époques des rumeurs selon lesquelles des enfants seraient enlevés pour être vendus, pour être asservis au plaisir des couches dominantes. Hein. Notamment, je renvoie un livre de deux historiens, Arlette Farge et Jacques Revel, dans un livre qui s'appelle « Logique de la foule », qui ont étudié une rumeur comme ça qui s'est diffusée à Paris en 1750, selon laquelle des enfants sont enlevés par des aristocrates de Versailles qui leur font subir les pires supplices. Et la rumeur a pris tellement de consistance que ça a provoqué une émeute. Bon. Et puis, plus près de nous, il y a un sociologue qui s'appelle Edgar Morin, qui avait étudié en 1969, encore une année érotique, bon, qui avait étudié une rumeur à Orléans, c'est le titre de son livre, La rumeur d'Orléans, selon laquelle les jeunes filles d'Orléans qui essayaient des vêtements dans des cabines d'essayage de commerçants juifs étaient droguées, et puis il y avait tout un système de souterrains qui permettait de les faire transiter jusqu'à un port où elles étaient chargées, endormies dans des bateaux, et elles se retrouvaient à Tombouctou ou à Dakar dans des bordels. Bon. Alors, évidemment, c'était sans aucun fondement. Ça s'était diffusé surtout chez les adolescentes de milieux modestes, mais ça a eu des effets quand même. Il y avait des commerçants juifs qui ont reçu des coups de fil anonymes. Bon, ça a été quand même un petit peu chaud. Alors, j'en reviens la fin du XIXe siècle. L'affaire des petites Anglaises, c'est comme ça qu'elle a été désignée à l'époque. Hein. Mais ce qui est important dans cette question-là, c'est que ce qui, avant tout, était une croyance populaire, hein, sous forme de rumeur, on trouve en 1750, en 1969, ça a été validé par quelqu'un qui relevait des couches dominantes, un journaliste qui était considéré comme sérieux et puis qui a été pris au sérieux. Hein. On a changé la loi suite à cette affaire des petites Anglaises, mais qui était en fait infondée. Hein. Et de fait, tous les historiens qui se sont penchés sur la période ont montré, et Corbin le montre, le bouquin date de 1978, que l'idée de la traite des Blanches, ça repose sur rien de concret. Il y avait, et il y a toujours, une circulation internationale des prostituées. Hein, mais ce ne sont pas de naïves jeunes filles, encore moins des enfants, ce sont des femmes qui cherchent à gagner de l'argent par la prostitution et qui pensent qu'elles vont en gagner plus à l'étranger. Et en l'occurrence, au XIXe siècle, elles savaient pertinemment qu'elles allaient rejoindre des bordels et elles savaient très bien ce qu'elles allaient y faire. Néanmoins, donc, le mythe de la traite des Blanches, il a été validé, consolidé par toute une série de discours d'indignation, par des organisations qui se sont constituées pour la dénoncer, et puis aussi par des politiques qui ont été adoptées pour y mettre fin. Et puis, comme cette traite allait supposée être de niveau international, il y a eu des arrangements entre États qui ont été établis afin de lutter contre elle. Alors, je ne vais pas évoquer tous les arrangements, ça serait fastidieux. Je vais m'arrêter sur le rôle qu'a joué la Société des Nations dans ce processus, parce que désormais, on dispose d'un très bon travail de Jean-Michel Chaumont, qui est sorti l'année dernière, qui s'intitule donc « Le mythe de la traite des Blanches, découverte ». Il a travaillé sur, il a eu un matériau fabuleux, il a travaillé sur un groupe d'experts réunis par la Société des Nations pour produire de l'expertise sur la traite des Blanches. Hein, et Chaumont, il a eu accès aux minutes des réunions de travail de ce groupe d'experts, c'est-à-dire tout ce qu'ils se sont dit pendant leur réunion à Genève. Et ce qui est fabuleux, c'est quand on voit leurs débats, leurs réunions internes, bon, on voit à quel point ces experts, qui étaient, c'était pas n'importe qui, c'était des hauts fonctionnaires, des magistrats, des universitaires, eh bien, ils ont complètement manipulé la réalité pour attester que la traite des Blanches, ça existe. Et notamment, ils avaient chargé une équipe d'enquêteurs pour enquêter concrètement sur la traite des Blanches. Ces enquêteurs, ils ont fait un travail très sérieux, ils ont été visiter des bordels un peu partout dans le monde. Ils avaient le financement de la Société des Nations, ça a pris plusieurs années. On a toujours les rapports de ces experts qui disent on n'a jamais trouvé de prostituées forcées à s'expatrier. On a bien cherché, mais on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé d'enfants, on n'a pas trouvé de choses comme ça. Et c'est un super matériau. Chaumont a prévu de faire un livre à partir de ça. L'expertise que les experts avaient à disposition un matériau qui leur permettait d'avoir une analyse de la prostitution des années 20 fabuleuse. Mais ils ne l'ont pas fait, ils ont simplement retranscrit dans leur rapport final tous leurs préjugés et leur obsession que la traite des Blanches, ça existe. Et on voit bien tous leurs préjugés racistes, sexistes, qui s'expriment. Et donc, ils ont manipulé les informations dont ils disposaient pour montrer que oui, ça existe, alors qu'il n'y avait rien qui montrait qu'il y avait quelque chose comme la traite des Blanches qui aurait pu exister. Alors, ça n'aurait pas été grave, si leur rapport s'était contenté de dresser un portrait erroné du monde prostitutionnel de l'époque. Le problème, c'est que leur expertise, elle a aussi légitimé la mise en place de dispositifs législatifs qu'on peut considérer comme liberticides, à l'encontre de l'ensemble des femmes, pas simplement des prostituées, mais spécialement des étrangères. C'est-à-dire que sous prétexte de les protéger de la traite, les voyages des femmes seraient davantage placés sous la tutelle des hommes. Et je cite Chaumont, « Mineurs ou majeurs, toutes les étrangères seraient réputées incapables et donc traitées comme des irresponsables. » On voit bien comment voilà, le contrôle du corps des femmes, le contrôle de leur déplacement, a été légitimé, sous prétexte évidemment de les protéger, vu que ce sont des petites choses fragiles. On retrouve là le même biais, le même processus pervers qui, à la fin du XIXe siècle, chez les abolitionnistes anglais, a conduit à promouvoir des lois de moralité publique qui se sont exercées au détriment des personnes qu'on entendait protéger. En les traitant comme des mineurs, en les traitant comme des irresponsables, eh bien, on a placé des femmes sous la tutelle de l'État, c'est-à-dire des hommes. Et on voit bien que c'est d'une politique de contrôle du corps et de la sexualité des femmes qu'il s'agit. Alors, la Seconde Guerre mondiale et puis la chute de la Société des Nations vont mettre un coup d'arrêt aux réflexions et aux politiques de ce type d'experts, mais leur travail va connaître un aboutissement un peu différé avec la Convention de l'ONU pour la répression, je cite, son intitulé, pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, donc qui a été ouverte à signature le 21 mars 1950. Alors, cette convention, elle est intéressante. Elle a quatre principes fondamentaux. Premièrement, l'abolition de toute réglementation de la prostitution et de tout fichage des prostituées. Donc ça, le truc central de l'abolitionnisme est affirmé. Deuxièmement, la poursuite de tous ceux qui organisent ou tirent profit de la prostitution d'autrui, y compris celle de personnes majeures et consentantes. Alors, si vous êtes prostituée, on a un doute sur est-ce que vous êtes consentante, a priori, et on peut éventuellement vous traiter comme une mineure. Troisièmement, la prévention de la prostitution, bon, éviter que des gens tombent dans cette activité. Et puis, quatrièmement, la rééducation des personnes prostituées, qui sont considérées donc comme des victimes, que celles-ci aient été forcées ou non à se prostituer. Vous voyez, la question du consentement, elle est mise en suspens cette histoire-là. Donc, c'est une convention qui est clairement abolitionniste et qui a été ratifiée par la France en 1960. Et donc, je vais revenir à la situation française, donc dans mon troisième point. Alors, l'abolitionnisme, je l'ai un peu évoqué, il a eu du mal à faire valoir ses positions en France au début du XXe siècle. Et de fait, le réglementarisme, il est resté très longtemps en place, notamment du fait que les associations de patrons de bordel faisaient un lobbying efficace auprès des politiques. Ça a fait barrage. Et puis, avec l'angoisse du péril vénérien et de la dégénérescence de la race, là aussi, après la défaite de 40, le réglementarisme sous Vichy a été encore plus renforcé. Vous voyez aussi à quoi ça correspond, cette idée de réglementation de la prostitution. À certaines périodes historiques, ça devient un peu plus aigu qu'à d'autres. Alors, le problème pour ces mêmes patrons de bordel, c'est qu'ils se sont un peu, même beaucoup compromis avec l'occupant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, à la libération, on les a sanctionnés, c'est-à-dire qu'on a interdit leurs établissements, d'abord sous la forme, vu que c'est au niveau municipal, d'une décision du Conseil municipal de Paris, sous l'impulsion d'une de ses élus, Marthe Richard, et puis cette décision a été intégrée ensuite au niveau national. Donc dire, bon, c'est juste une anecdote, dire la loi Marthe Richard, c'est une aberration, Marthe Richard n'a jamais fait de loi, elle était conseillère municipale. Mais en tout cas, elle a promu l'interdiction des bordels. Et donc, en 1946, on met fin au système des bordels. Pour autant, on n'abandonne pas le réglementarisme. Parce que l'inscription obligatoire a été maintenue en même temps que le contrôle sanitaire obligatoire. Donc, les prostituées, elles n'exercent plus dans des bordels. Elles exercent dans la rue, où on veut. Mais elles sont soumises aux mêmes contrôles et aux mêmes sanctions si elles ne vont pas se faire enregistrer et dépister. Et donc, il faut attendre 1960 et la ratification par la France de cette convention de l'ONU pour que, enfin, notre pays mette fin au réglementarisme et se convertisse à l'abolitionnisme. Donc, la prostitution, à cette occasion, elle est considérée comme un fléau social, au même titre que, je l'avais dit la semaine dernière, l'alcoolisme, la tuberculose et l'homosexualité. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Tout d'abord, ça va changer le fait que les prostituées vont intégrer le droit commun en matière de dépistage et de traitement de leurs éventuelles maladies sexuellement transmissibles. Il n'y a plus de dispensaires qui leur sont réservés, mais elles vont consulter des centres spécialisés qui sont ceux de monsieur et madame tout le monde. Et elles sont soumises en la matière aux mêmes obligations de déclaration et de traitement que monsieur, madame, tout le monde. Donc les médecins s'effacent, disparaissent de la scène, mais ils sont remplacés par d'autres personnes qui sont une autre catégorie d'intervenants spécialisés, qui sont les travailleurs sociaux. Donc la convention de l'ONU, c'est devenu la loi française en matière de prostitution, si on veut. Et cette convention, elle déclare que la prostitution et le proxénétisme, le préambule de la convention, le mal qui l'accompagne, le proxénétisme. Il y a l'idée que les deux, c'est pas dit explicitement, mais les deux sont indissociables. S'il y a prostitution, il y a proxénétisme. Donc, prostitution et proxénétisme sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l'individu, de la famille et de la communauté. Donc la prostitution, c'est considéré comme quelque chose de pas bien, comme une inadaptation sociale, et donc on a des travailleurs sociaux, désormais, qui sont là pour proposer une assistance spécialisée aux prostituées, pour éviter que les personnes en danger de prostitution sombrent dans cette forme de marginalité. Alors, c'est là qu'on trouve quelque chose d'assez fascinant dans la manière dont l'abolitionnisme fonctionne au niveau législatif, au niveau juridique en France. C'est-à-dire que la loi française ne parle pas de prostitution. Il n'y a pas d'article sur la prostitution dans le code pénal, par exemple. Et la prostitution n'est pas interdite. Et, suivant le principe juridique, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, la prostitution est une activité tout à fait légale, mais qui relève de la sphère privée. D'ailleurs, j'y avais insisté la semaine dernière, ce qui est privé, la loi n'a pas à y mettre son nez, ou alors dans des conditions vraiment très particulières, et donc, se prostituer, ça relève de la vie privée. Le fait de faire des galipettes gratuites ou payantes ne regarde pas l'État. Sous deux réserves, spécifiquement bien précisées. Premièrement, il faut des conditions minimales de discrétion. C'est-à-dire, pas d'outrage à la pudeur. Bon, ça c'est valable pour tout le monde. Et puis, pas non plus, ça c'est plus spécifique, pas de racolage agressif. Quelqu'un dans la rue qui sollicite tous les passants en disant « Viens chez moi, il y a du feu » ou des choses plus explicites, c'est interdit parce que ça dérange le passant, il n'a pas forcément envie qu'on lui propose des choses comme ça. Bon. Donc ça, question de discrétion, revoit toujours la question de la décence, c'est important. Deuxième chose, il faut que cette activité soit exercée dans des conditions de complète autonomie. C'est-à-dire que ce qui est interdit aussi, c'est le proxénétisme. C'est le fait de tirer profit de la prostitution d'autrui. Pas être prostitué soi-même, mais retirer de l'argent qu'une prostituée, un prostitué a gagné pour vous. Alors, le droit français distingue des formes simples qui sont redevables de la correctionnelle. Par exemple, ça peut être le proxénétisme hôtelier. Vous êtes propriétaire, vous avez une locataire qui réalise des passes. Eh bien, vous pouvez tomber pour proxénétisme hôtelier, si vous le savez. Alors après, il faut démontrer qu'on ne le savait pas, des choses comme ça. Si vous avez un bar et puis que vous avez une backroom et il y a des passes qui se font dans la backroom, là, vous pouvez tomber pour proxénétisme hôtelier. Des choses comme ça. Et puis, ça, c'est les formes simples. Plus ou moins sévèrement punies. Et puis, vous avez les formes proxénétisme aggravé sous deux formes principales, avec acte de torture ou en bande organisée. Donc là, c'est très grave, c'est la cour d'assises. Donc le droit français est très sévère sur les questions de proxénétisme comparativement à d'autres législations nationales. Voilà. Mais interdiction du racolage et du proxénétisme, sinon, on a le droit de se prostituer. Ce qui est pas interdit, autorisé, donc c'est pas interdit, on peut. Mais ce droit de se prostituer, il est immédiatement nié, puisque la prostitution est une inadaptation sociale. Et donc on est sur un registre qui est celui du poisson soluble des surréalistes. C'est-à-dire qu'on a le droit de se prostituer qui est reconnu de manière abstraite, mais quiconque prétendrait exercer dans la réalité ce droit indiquerait par là même qu'il n'est pas responsable de ses actes. Vouloir exercer une activité qui est une inadaptation sociale, c'est prouver qu'on n'est pas en mesure de conduire son existence par soi-même, de manière autonome, et donc qu'on doit être secouru par des travailleurs sociaux et qu'on a besoin d'une tutelle. Et dans cette optique, le seul horizon valable aux yeux du travail social abolitionniste, c'est donc l'arrêt de la prostitution et la réinsertion dans un travail normal. Donc on a une contradiction entre une activité qu'on a le droit d'exercer, mais que tout vous incite à abandonner, et qui est malgré tout condamné. Pas condamné juridiquement, mais condamné moralement. Alors donc le passage à l'abolitionnisme, il va consacrer ce rôle prédominant des travailleurs sociaux, et tout un secteur spécialisé va se développer à partir de 1960, travail social, soit public, mais qui va rester très faible, et puis surtout un secteur privé, subventionné, avec des équipes de rue, il faut contacter les prostituées pour leur proposer de l'aide, ou identifier les personnes en danger de prostitution, et puis des foyers et des ateliers de réinsertion par le travail. Mais avec rien d'obligatoire, c'est les prostituées qui veulent arrêter, à qui on va proposer, chaudement proposer cette réinsertion. Alors, c'est un système qui va fonctionner, ma foi, pas trop mal pendant des années, jusqu'aux années 80. Les années 80, il y a le sida qui apparaît. Et ça va provoquer une crise parce que l'abolitionnisme et le travail social qui en découle se sont construits sur une appréhension avant tout psychosociale de la prostitution. C'est une inadaptation sociale causée par des traumatismes vécus dans l'enfance. Enfin, il y a tout un discours psychologique là-dessus. Donc, une appréhension psychosociale qui s'est construite contre la définition de la prostitution comme un problème sanitaire, un problème de santé publique. Sauf que voilà, on a une nouvelle maladie sexuellement transmissible, qui plus est mortelle, qui pose la question à nouveau de la dimension sanitaire de la prostitution. Parce que ce sida qui apparaît, est-ce que les prostituées, on sait qu'il augmente avec le nombre, l'exposition à la contamination augmente avec le nombre de partenaires. Les prostituées, elles ont pas mal de partenaires différents, elles risquent de devenir un vecteur de l'épidémie. Et les pouvoirs publics, après une première phase d'inaction, vont se saisir de la question du sida, mais dire bon, faut faire de la prévention auprès des prostituées pour qu'elles utilisent bien le préservatif, on ne peut pas leur interdire de se prostituer, mais les associations de travail social, est-ce que vous voulez bien faire de la prévention? Et là, le travail social dit ah non, absolument pas. Ça dépend de certains secteurs, notamment celui dépendant des DAS, le secteur public va davantage relayer les campagnes de prévention, mais le secteur privé va être plus réticent. Et les associations abolitionnistes, la principale en France qui s'appelle le Mouvement du Nid, vont être très réticents. Elles vont dire le meilleur moyen de se prémunir du sida, c'est d'arrêter la prostitution. Donc, et puis dire, c'est pas tant les prostituées qui sont exposées au sida, c'est plus les usagers de drogue. Bon. L'abolitionnisme est très mal à l'aise avec cette question du sida. Parce que ça remet en cause la dimension, la lecture sociale, psychosociale qu'il promeut, à l'avantage d'une lecture sanitaire dont ils ne veulent pas. Et donc, les pouvoirs publics, et principalement l'Agence française de lutte contre le sida, qui a été créée pour justement impulser la prévention auprès de différentes populations potentiellement exposées à la contamination, ces pouvoirs publics vont se tourner vers d'autres acteurs pour mettre en place la prévention auprès des prostituées. Alors, ces acteurs, ça va être en grande partie le secteur associatif de lutte contre le sida, que j'avais évoqué la semaine dernière, notamment AIDE, et des actions spéciales pour les prostituées vont être mises en place au sein de AIDE dans plusieurs villes. Mais ça va être aussi des professionnels de la santé qui sont passés par la médecine humanitaire, et puis quelquefois des prostituées elles-mêmes qui ont commencé à faire de l'information auprès de leurs collègues. Et à partir du début des années 90, on va voir se mettre en place des associations de prévention à direction des prostituées, et il y en a une qui est célèbre à Lyon, qui est Kabiria, que vous connaissez peut-être. Kabiria, comme le film de Fellini, Les Nuits de Kabiria. Alors, ce sont des associations qui se revendiquent pour la plupart de la santé communautaire, Alors je l'ai dit, c'est une référence de la médecine humanitaire. La santé communautaire, c'est-à-dire qu'on fait de la santé publique, premièrement, on adopte l'action de prévention aux formes culturelles spécifiques du groupe auquel on s'adresse, c'est-à-dire on ne fait pas de la prévention auprès des prostituées comme on en fait auprès des adolescents, comme on en fait auprès des toxicomanes, comme on en fait auprès des homosexuels, première chose. Et puis, deuxièmement, on mobilise le groupe auquel on s'adresse dans l'action qui lui est destinée. Et en pratique, ces associations vont enrôler des prostituées ou des ex-prostituées qui vont être salariées au nom de la connaissance qu'elles ont retirée de leur propre expérience du trottoir, une connaissance irremplaçable que des infirmières, des médecins ne peuvent pas acquérir, parce qu'ils ne sont pas passés par là. Et ces prostituées vont être chargées de faire de la prévention auprès de leurs collègues avec des professionnels de santé qui, eux, sont là pour assurer la dimension sanitaire. Alors, le secteur abolitionniste, il a très mal réagi parce qu'il a vu son monopole d'intervention et d'expertise remis en cause, mais il a vu aussi sa définition de la prostitution comme une inadaptation contestée au profit d'une vision plus favorable. Parce que si on reconnaît, si on dit l'expérience du trottoir des prostituées, c'est pas simplement une période de souffrance sur laquelle elles doivent tirer un trait, mais pendant cette période, elles ont acquis des connaissances et des compétences qui sont utiles pour la prévention, ben on donne une vision un peu plus positive de cette activité. Et puis, l'abolitionnisme va accuser la prévention sida d'encourager à la prostitution et de la faciliter, alors qu'il faudrait, au contraire, favoriser l'arrêt du trottoir. D'où des attaques très violentes qui vont être lancées contre les associations sida, qui sont toujours aujourd'hui, parfois ça ressort des attaques, puis bon, c'est devenu un milieu très conflictuel, donc il y a les attaques des deux côtés. Mais dans les faits, dans les pratiques, la frontière entre la santé publique et le travail social tend à s'estomper, c'est-à-dire que le travail social a repris certaines formes d'intervention de la santé communautaire, comme le fait d'avoir un camping-car qui circule sur les zones de prostitution et puis distribuer des préservatifs et des seringues éventuellement. Et puis, de son côté, la prévention du sida, c'est aperçu qu'on ne peut pas se cantonner simplement au sida, mais qu'il faut prendre en compte la dimension sociale, le fait que les gens n'ont pas la sécu, ils sont en situation irrégulière, et donc il faut développer un volet social. Néanmoins, il y a un antagonisme, toujours latent entre ces deux types d'associations. Et ça s'exprime d'autant plus que les associations de santé communautaire ont repris souvent les revendications formulées par certaines prostituées de voir leur activité reconnue et normalisée comme un travail du sexe, qui serait égal en dignité et en droit avec les autres activités professionnelles et qui ouvrirait à des droits sociaux tels que la sécu ou la retraite. Alors cet antagonisme, il s'est renouvelé à la fin des années 90, avec l'arrivée de nouvelles prostituées étrangères, originaires d'Europe de l'Est, d'Afrique, dans une moindre mesure aussi de Chine. Et ce qui a été le très marquant de cette arrivée, ça a été sa visibilité. Dans plusieurs villes, en quelques semaines, on a vu arriver sur les trottoirs beaucoup de jeunes femmes, dont les activités ne faisaient aucun doute. Et cette arrivée a donné un nouvel élan aux abolitionnistes, auxquels se sont ralliés aussi certains courants féministes au cours des années précédentes. Et désormais, l'identité abolitionniste a glissé de l'abolition de la réglementation à l'idée de l'abolition de la prostitution elle-même. C'est pour ça que je tenais à y insister tout à l'heure, sur l'origine du terme. Et l'explication dominante de l'arrivée de ces étrangères, qui en plus est une arrivée en groupe, ça s'est coulé dans l'imagerie de la traite du trafic des êtres humains. Et en fait, c'est très largement la rumeur d'Orléans, un peu réadaptée, actualisée, qu'on va retrouver dans les reportages télévisés, mais aussi dans certains discours abolitionnistes et féministes. L'idée de naïves jeunes filles, pauvres petites albanaises, qui vont se laisser abuser par des proxénètes manipulateurs qui leur proposent des emplois de jeunes filles au pair, qui en fait les contraignent par la violence à se prostituer. Alors, les travaux un peu sérieux sur les prostituées migrantes montrent que les choses sont un peu plus compliquées. Pour résumer, il y a bien une circulation internationale des prostituées. Pour autant, cette circulation ne prend pas la forme dominante de la traite telle que je viens de la résumer. Premièrement, ces femmes, elles ont un projet migratoire qui doit être aussi pensé en référence aux alternatives, ou plus exactement aux absences d'alternatives, dans leur pays d'origine. Et donc, elles ne doivent pas être envisagées comme uniquement passives dans un processus qu'elles ne feraient que subir. Elles en sont aussi les actrices. Deuxièmement, Leur migration comporte effectivement une part de clandestinité et d'illégalité, mais c'est aussi compte tenu de la politique de fermeture des frontières dans laquelle se sont engagés les pays de l'espace Schengen, ce qui a pour conséquence une dépendance accrue à l'égard de passeurs qui font évidemment payer très, très cher leurs services et à l'égard desquels des dettes sont contractées. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas tant les proxénètes qui piquent les sous que les passeurs à l'égard desquels il y a des dettes. Et puis, troisièmement, bien souvent, ces personnes savent que c'est la prostitution, tout au moins des activités qui en sont proches, qu'elles vont exercer une fois arrivées. Et notamment, il y a pas mal de prostituées qui viennent de la zone de l'ex-Yougoslavie qui déjà se prostituaient, notamment parce qu'il y a des soldats de l'ONU. Et elles essayent de gagner plus en venant en Europe occidentale. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les prostituées, et je pense à un travail qui est très intéressant, qui vient d'être publié dans la Revue française de sociologie, sur les prostituées chinoises. Alors, elles, ce sont des femmes qui souvent travaillaient dans le secteur public chinois, mais bon, bah, secteur public, il n'y en a plus, elles ont perdu leur emploi, et elles pensaient trouver facilement du travail en France. Et donc, elles contractent des dettes pour passer clandestinement en France. Et puis, quand elles arrivent, elles déchantent, et notamment, elles se rendent compte qu'elles sont sans papier, que c'est très dangereux pour elles. Et elles se retrouvent soit domestiques surexploitées, souvent pour d'autres Chinois, mais qui, eux, sont installés de plus longue date en France, soit elles se retrouvent dans les ateliers de confection, donc dans des situations d'exploitation extrêmement brutale. Et elles vont développer, pour y échapper, soit à cette domesticité, soit à ces ateliers de confection, elles vont développer des stratégies dans lesquelles leur sexualité devient une ressource. C'est-à-dire que soit elles vont chercher à se marier à un Français en espérant obtenir des papiers, soit elles vont se prostituer, et les deux ne sont pas incompatibles, parce que si on a un client qui tombe amoureux, on peut essayer de se marier avec lui, et c'est tout bénéfice. Alors, dans le cas de ces Chinoises, il n'y a pas l'ombre d'un proxénète dans cette histoire. C'est la précarité qui est renforcée par l'irrégularité du séjour qui va suffire, si je puis dire, à faire de la prostitution une option, et qui plus est, au dire des prostituées, les sociologues, je pourrais donner référence si ça intéresse, les sociologues qui les ont interviewées, c'est pas la pire situation qu'elles aient rencontrée en France. Et entre exploiter, être au domicile 24 heures sur 24 d'un autre Chinois qui exploite, ou travailler 15 heures par jour dans un atelier de confection et puis faire le tapin, c'est pas forcément le tapin qu'elle considère comme le pire. Alors, donc, le discours de la traite, il est inadéquat pour rendre compte des parcours et de l'expérience des prostituées migrantes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'exploitation par des proxénètes, qu'il n'y a pas aussi une considérable déception quant aux conditions d'existence et de séjour en France. Certaines savaient qu'elles allaient se prostituer, mais elles sous-estimaient largement la dureté de ce qui les attendait. Et la dureté parce qu'il y a aussi de la violence dans ce milieu-là. Et cette violence, c'est pas seulement celle des éventuels proxénètes, ça peut être celle des passeurs, ça peut être celle des concurrentes sur place, parce que les autres prostituées sont pas forcément très accueillantes à l'égard des nouvelles concurrentes. Et puis c'est celle des riverains, et ça peut être bien sûr celle de la police. N'empêche que ce discours de la traite, il a une efficacité sociale. Il a contribué, ce discours, à associer la prostitution à la criminalité organisée, dans le même temps qu'il favorise une représente ambivalente des prostituées. Ce sont des victimes, et à ce titre, elles méritent la compassion, mais on peut aussi leur reprocher leur naïveté, de cette mise d'elles-mêmes en difficulté en écoutant les promesses fallacieuses de proxénètes qui leur proposaient des emplois de jeunes filles au pair. Et puis, cette naïveté supposée, elle légitime une attitude paternaliste à leur égard. Vu qu'elles sont irresponsables, on sait mieux qu'elles ce qui est bon pour elles. Vous vous rappelez la définition de la convention de l'ONU, même consentantes, même si elles disent qu'elles étaient d'accord, elles sont considérées comme irresponsables. Et elles ont aussi partie liée avec le monde du banditisme, elles en sont les incarnations dans le voisinage, et à ce titre, ça légitime que ce soit une action policière qui prévale. Et comme en outre, si elles sont là, c'est contre leur volonté, dans l'imaginaire de la traite, elles ont nécessairement été forcées, leur vraie place est chez elles, et donc elles doivent être renvoyées dans leur pays. Alors, cette efficacité sociale de l'image ambivalente de la prostituée migrante, ça a légitimé la mise en œuvre d'une politique avant tout policière et répressive, dont la loi sur la sécurité intérieure, en 2003, a été l'expression majeure. Mais cette loi sur la sécurité intérieure, sur laquelle je vais dire quelques mots avant de finir, elle a été précédée, et par exemple à Lille, où c'est Martine Aubry qui est maire, en 1998, déjà, répression policière pour virer les prostituées du centre-ville. Ça a été accompagné, au moment où donc le nouveau ministre de l'Intérieur, en 2002, a commencé à dire « je vais faire une loi contre les prostituées », ça a été précédé et accompagné par des arrêtés municipaux anti-prostitution, comme dans notre ville, où depuis 2002, quand même, notre maire a adopté 5 arrêtés anti-racolage. Alors, pour autant, la loi sur la sécurité intérieure, elle ne remet pas en cause le cadre légal global en matière de prostitution. C'est-à-dire que le cadre impulsé en 1960, il est toujours là. La France est toujours un pays abolitionniste. Mais les formes publiques de la prostitution sont plus sévèrement réprimées. Alors, la loi sur la sécurité intérieure, elle a quand même apporté 2 innovations majeures. La première, en fait, a été en préparation sous le gouvernement Jospin. C'est l'instauration d'un crime de traite des êtres humains qui est très sévèrement puni, et qui prévoit que les prostituées qui vont dénoncer leur proxénète, vu qu'elles ont dans l'imaginaire nécessairement un, celles qui dénoncent leur proxénète vont se voir accorder un titre de séjour provisoire. Vu que ce sont des victimes, il faut être sympa avec elles. La première critique qu'on peut adresser à cette loi, c'est qu'elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien puisque les crimes qu'elle réprime pouvaient antérieurement être poursuivis au titre du proxénétisme en bande organisée. Donc, voilà, c'est assez fréquent de nos jours de faire une loi qui vient simplement paraphraser une autre loi. La deuxième limite, la deuxième critique, c'est que la figure de la victime de la traite, elle est invoquée, là aussi c'est un peu le poisson soluble, elle est invoquée uniquement pour disparaître immédiatement. Dans la pratique, la prostituée migrante, elle est considérée comme coupable de séjour irrégulier et de racolage avant que d'être considérée comme une victime de la traite. Concrètement, ça veut dire que si on trouve une prostituée moldave ou albanaise, elle est expulsée avant même de pouvoir témoigner contre son proxénète. Puis il faudra encore qu'elle en ait un, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, voilà. Alors, la seconde innovation, bien sûr, c'est la réinstauration du délit de racolage passif, qui avait disparu du code pénal en 1994, et il avait disparu pour les mêmes raisons qui ont motivé sa réintroduction, c'est que c'est un instrument de répression arbitraire au service de la police. Racolage passif, c'est vous êtes connu comme prostituée, vous êtes dans la rue, boum, PV. Donc c'est très pratique pour la police pour nettoyer les rues là où il y a où on ne souhaite pas la présence de prostituées. Or, pour comprendre cet enjeu de nettoyer les rues, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, eh ben, pour comprendre ça, il faut faire appel à un concept qui est utilisé par les géographes et les sociologues urbains, qui est le concept de gentrification. Alors, la gentrification, c'est quoi? C'est le peuplement des anciens centres-villes par des classes moyennes et aisées qui viennent prendre la place des anciens habitants plus modestes. Je suis sûr que vous voyez des quartiers. Afin d'attirer cette population plus aisée, les villes sont soucieuses de beaucoup de choses, parce que c'est une population, voilà, il y a du fric, ils dépensent. Hein, donc c'est bon pour la prospérité de la ville, beaucoup plus que les anciens ouvriers qui éventuellement habitaient les pentes de la Croix-Rousse, par exemple. Donc, pour attirer cette population, les villes sont soucieuses de beaucoup de choses, comme des équipements culturels, mais aussi d'éliminer tout ce qui pourrait être perçu comme une nuisance, voire la source d'un sentiment d'insécurité. Évidemment, les prostituées participent de ce sentiment d'insécurité. Alors, contre le sentiment d'insécurité des classes moyennes urbaines, enfin, contrer ce sentiment d'insécurité de ces classes moyennes aisées, ça a un prix. Ça a pour prix l'insécurité des prostituées, et ça c'est une insécurité réelle, c'est pas simplement une insécurité ressentie. Hein. Parce que désormais, elles sont harcelées par la police, menacées d'expulsion, assommées de PV, elles doivent se retrancher dans des zones de fait isolées, désertes, où elles dérangent pas les riverains, ça c'est clair, mais où elles sont davantage exposées aux agressions, et puis où elles sont plus difficiles à joindre pour les associations de prévention ou de travail social. Et donc de ce fait, elles sont beaucoup plus vulnérables et précaires, elles sont conduites à une clandestinité accrue, ce qui, bien sûr, a une influence directe sur la manière dont elles exercent et sur leur position dans les rapports de force avec les clients, c'est-à-dire qu'elles sont d'autant moins à même d'imposer leur volonté aux clients, et notamment d'imposer leur volonté de,
d'employer le préservatif, qu'elles sont obligées de travailler dans l'urgence et la clandestinité, et puis qu'elles sont davantage pressées par le manque d'argent. Et donc, ce qu'on constate, lorsqu'on intègre que cette loi a été déterminée par des enjeux avant tout urbains, c'est en fait la déconnexion du débat qui a été les termes du débat dominant sur la prostitution ces dernières années, qui a été l'opposition entre la prostitution, c'est un métier qu'il faut reconnaître, la prostitution, c'est un esclavage qu'il faut abolir. Ça, c'est le débat est en fait stérile. De toute façon, il n'y a pas de solution à de manière de trancher sur un point ou un autre, à mes yeux. Mais surtout, ça a empêché le fait de se focaliser sur cette alternative, esclavage ou métier, ça a empêché de prendre la mesure des enjeux urbains de cette activité, et que c'est autour de ces enjeux urbains que se décident et que se mènent les politiques contemporaines en matière de prostitution. Voilà, je m'excuse, j'ai à nouveau été un peu trop long, mais j'aurai toute la... Merci. Pour réagir.